Radio Kapi.
Oh, Kapi. Noël Aluzitu Kabambi à la présentation.
Pour présenter leur projet de la sortie de crise à travers le pacte social pour la paix et le vivre ensemble, la Conférence épiscopale nationale du Congo Synco et l'Église du Christ au Congo ECC ont initié une série de consultations auprès des acteurs clés du pays. Ils ont déjà pu parler avec le chef de l'État congolais ainsi qu'avec l'opposant politique Martin Fayulu. Les élèves plaident pour une action urgente du gouvernement congolais pour sauver cette année scolaire. Il s'agit bien sûr des élèves du Nord Kivu, notamment de Goma. La guerre a poussé les responsables scolaires à suspendre les cours dans toutes les écoles à la suite de la guerre du 1-23. Trois semaines déjà, sans les enseignements, ces élèves s'interrogent sur leur sort. Christian Bosembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication CESAC et l'invité de Radio Okapi, il va revenir sur le communiqué du 30 janvier dernier rappelant l'obligation faite aux professionnels des médias de s'abstenir de diffuser les informations sur la guerre dans l'est de la RDC sans se référer aux sources officielles. Bonjour à tous. Situation sécuritaire en RDC. La Conférence épiscopale nationale du Congo Synco et l'Église du Christ au Congo ECC ont entamé une série de consultations auprès des acteurs clés du pays. L'objectif est de présenter leur projet de la sortie de crise à travers le pacte social pour la paix et le vivre ensemble. Après avoir rencontré le président de la République, Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Synco, et le révérend Eric Senga, porte-parole de l'ECC, ont aussi rencontrer l'opposant Martin Fayulu ce mardi à Kinshasa. Grâce à Mzati, nous fait le point.
D'après le révérend Eric Senga, porte-parole de l'ECC, il était question de discuter avec Martin Fayulu et lui présenter également l'initiative entreprise par la Synco et l'ECC. Ces consultations constituent une approche qui nous prépare au pacte social, dit-il. Le porte-parole de l'ECC affirme que l'opposant Martin Fayulu a accueilli avec intérêt cette initiative et a fait des observations des fonds. Nous sommes sortis d'ici avec un consensus clair sur l'intérêt qu'il y a à construire la cohésion nationale, déclare-t-il. Avec la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays, la Synco et l'ECC disent envisager de résoudre pour toujours cette instabilité à travers un pacte social pour la paix et le vivre ensemble. La Synco et l'ECC accélèrent leur initiative par les consultations de la quasi-totalité des acteurs clés du pays. Dans la soirée de lundi, les représentants de ces deux églises ont rencontré le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, signalant que ce projet a pour finalité le renforcement de la cohésion nationale dans le pays, indiquent les initiateurs.
Toujours en rapport avec la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, notez que les deux chambres du Parlement sont convoquées à partir de ce mardi 4 février en session extraordinaire. Au cours d'une réunion hier lundi dans la soirée, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, et celui du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, accompagnés de leurs rapporteurs respectifs, ont échangé autour des modalités de l'organisation de cette session extraordinaire pour statuer sur cette situation d'urgence nationale. À l'issue de cette réunion, le rapporteur de l'Assemblée nationale a souligné que les deux chambres du Parlement ont été saisies officiellement par le président de la République. En conséquence, les présidents de deux chambres ont décidé de convoquer séparément une session extraordinaire pour rechercher les voies de sortie de crise en vue d'un retour définitif de la paix dans la région. Professeur Jacques Djoli est au micro de Michel Kifindangoy.
Cette session aura comme point essentiel l'évaluation de la situation, mais surtout les stratégies de sortie des crises de cette guerre que nous subissons depuis 30 ans à l'est de notre territoire et qui met en danger l'ensemble de la région de Grand Lac. Donc, les députés sont convoqués en session extraordinaire à partir de 4 février à 14h pour proposer une voie de sortie politique et diplomatique, étant entendu que le schéma opérationnel et militaire est de la compétence du commandant suprême des forces armées. Sur ce point, dans les discussions, il s'est dégagé un élément important, l'impératif de la cohésion nationale, de l'adhésion de tous les peuples congolais à cette volonté de protéger notre territoire, de faire cesser cette guerre injuste autour du président de la République démocratique du Congo.
Au cours de cette session extraordinaire, il est aussi question de la prestation de serment, conformément à la loi, des juges de la Cour constitutionnelle nommés par le président de la République. Par ailleurs, au regard de la sensibilité de l'ordre du jour, à savoir la situation sécuritaire du pays, les bureaux de deux chambres du Parlement ont décidé que ces deux séances plénières se tiendront à huis clos. Sur le plan humanitaire, Bruno Lemarquis, coordinateur des opérations humanitaires en RDC, appelle à l'union des efforts pour faire de la réouverture de l'aéroport international de Goma une priorité urgente. À travers un communiqué de presse rendu public ce mardi, ce haut fonctionnaire onusien met en avant le besoin criant d'aide humanitaire dans cette zone qui fait face à diverses difficultés. Ronéline Tibonera.
Fermé depuis plus d'une semaine à la suite des combats entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23 autour de Goma, les conséquences engendrées par ces affrontements sur la population sont préoccupantes. Parmi elles, ces documents revient sur les nombreux blessés qui nécessitent des soins urgents, les infrastructures médicales qui restent débordées et des milliers de civils toujours privés d'assistance vitale. Alors que les appels à l'aide se multiplient dans la région, cette ouverture permettra entre autres de faciliter l'évacuation des blessés graves, de faciliter l'acheminement de fournitures médicales et la réception de renforts humanitaires actuellement paralysés, indique ses communiqués. Bruno Lemarquis invite les parties au conflit à prendre leurs responsabilités en mettant tout en œuvre pour que les trafics reprennent à l'aéroport international de Goma. Pour lui, cette décision vise à sauver des vies en péril, insiste-t-il. Pour rappel, l'aéroport international de Goma est la seule infrastructure aérienne dont dispose cette ville de plus d'un million d'habitants. La décision porte en suspension des activités de vol avait été rendue publique le 26 janvier dernier.
Et puis, dans un communiqué parvenu ce mardi à Radio Okapi, une équipe d'experts internationaux a exprimé son inquiétude face à la détérioration de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Elle a condamné fermement des offensives menées au nord Kivu et au sud Kivu par le M23 soutenu par l'armée rwandaise. Explication avec vous, Blaise Ndongala Mayanda.
Dans ces documents d'une seule page, ces experts ont déploré la mort des civils et des victimes dans les rangs de l'armée congolaise, ainsi que des casques bleus de la MONUSCO et des soldats de la SAMIR RDC. Ils ont également présenté leurs sincères condoléances au gouvernement, au peuple congolais, ainsi qu'à l'Afrique du Sud, au Malawi, à l'Irigoué et aux familles de ces soldats, avant d'exprimer leur soutien aux blessés et autres personnes affectées par ces combats. Ces experts internationaux ont regretté les actes de violence et de pillage contre les personnes, les institutions et leurs biens à Goma, à Bukavu, à Kinshasa et dans d'autres agglomérations du pays. Ils ont assuré la MONUSCO et l'ensemble d'acteurs humanitaires de leur soutien et s'inquiètent surtout de l'aggravation de la crise humanitaire dans l'est de la RDC. Dans ces mêmes documents, ces experts ont en outre exhorté les différentes parties au respect des droits de l'homme, du droit international humanitaire et à prendre toutes les mesures possibles pour protéger les civils, en particulier les femmes, les enfants ainsi que les personnes vivant avec handicap.
En ce qui concerne l'éducation formelle, à la suite de la guerre, le calendrier scolaire est perturbé pour les élèves de la ville de Goma. Ces derniers s'interrogent sur leur sort quant à l'année scolaire en cours après 3 semaines sans les enseignements. Les responsables scolaires avaient en effet, le 24 janvier dernier, suspendu les cours jusqu'à nouvel ordre à la suite de la situation sécuritaire précaire à Goma. Les élèves plaident pour une action urgente du gouvernement congolais pour sauver cette année scolaire. Denise Lukeso.
À cause de la guerre, je n'étudie plus depuis 3 semaines. Moi, je pense que nous devrons reprendre le cours parce que laisser les enfants comme ça, c'est pas bien. Ils doivent développer de nouvelles choses.
Nombreux élèves et écoliers ont quitté la ville pour se mettre à l'abri aux côtés de leurs parents. C'est le cas de cet élève.
Avec la guerre, j'ai été obligée de fuir, j'ai été obligée de tout abandonner. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus rien.
Lina Ngavo, finaliste au lycée Amani, s'interroge comme les autres sur son sort.
Là, notre avenir, il est dans le flou. On ne sait pas comment ça va se passer pour nos étapes, nos ambitions. Ça tombe à l'eau parce que avec la guerre, tout s'arrête.
Alors que certaines infrastructures scolaires ont été touchées et pillées, les élèves se demandent si reprise des cours y aura et dans quelles conditions ils vont répondre. Gloria Iyemoninga, comme tous les autres élèves, plaide auprès du gouvernement pour une action urgente.
On demande au gouvernement de pouvoir revoir cette situation, que cela soit plus prioritaire, qu'on sache si on va continuer, si on va devoir arrêter. mais qu'on trouve une solution pour notre cas.
Du côté des autorités de l'EPST, aucune communication jusqu'ici. L'Université de Goma, pour sa part, dans un communiqué publié hier, appelle à la reprise des activités académiques à partir de ce 4 février.
Pendant ce temps, dans la ville de Béni, deuxième jour ce mardi, des journées sans activité décrétées par la coordination urbaine de la société civile. C'est pour dénoncer l'agression rwandaise et soutenir les militaires des forces armées de la RDC et les Wazalendo engagés au front contre le 1-23. Les activités socio-économiques sont restées paralysées, mais on signale quelques actes de violence dans la ville. Marc Marofimbo a fait la ronde de la ville. Voici son reportage.
Ce mardi, au deuxième jour de la ville morte décrétée par la coordination urbaine de la société civile, les portes des maisons de commerce sont restées fermées tout l'avant-midi. Seules les officines pharmaceutiques ont ouvert leurs portes. Au marché central de Kilokwa, tout comme dans le petit marché de Mayangose, les étalages sont enchalandés et la circulation est normale dans les centres de la ville. Pour les organisateurs, le message est passé. Les populations de la ville de Beni sont toutes derrière le gouvernement et les FARDC appuyés par les Wazalendo. Globalement, ces deux jours de ville morte se sont plutôt bien déroulés, sans casse. Tout au plus, lors de la marche de lundi, quelques jets de pierres par certains jeunes ont été signalés sur l'artère principale de la ville ainsi que quelques barrières érigées sur les avenues du quartier commissaire de Matongé. Mais les forces de sécurité sont vite intervenues pour rétablir l'ordre. Signalons que les organisateurs ont placé cette deuxième et dernière journée de la ville morte sous le signe de la méditation et de la prière. Prière pour mettre fin à la dégradation de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu en particulier et dans toute la partie est de la République démocratique du Congo en général. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Nous attendons aujourd'hui le retrait des troupes rwandaises sur le sol congolais. Elles n'ont pas de place ici, ça doit être clair. C'est en ces termes que s'est exprimé Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias, à une question d'un journaliste sur le communiqué des occupants rwandais qui demandait un cessez-le-feu humanitaire à Goma. C'était lors du briefing de presse d'hier lundi, co-animé avec son collègue de l'intérieur. Pour le porte-parole du gouvernement, il n'y croit plus aux communiqués provenant des occupants, car ils sont dans la plupart mensongers. Les propos de Patrick Muyaya sont recueillis par Blaise Shindani Kambala.
Bon, écoutez, nous sommes coutumiers de ces communiqués pour la plupart mensongers. Mensongers, c'est bien que vous ayez parlé du Rwanda, parce que vous avez compris l'interpellation du vice-premier ministre dès le départ. Il n'est plus du tout question de parler d'un mouvement de marionnettes, de gens qui viennent s'y réjouir lorsqu'il y a des milliers de Congolais qui ont perdu la vie avant qu'eux n'arrivent pour se réjouir. Je ne voudrais pas revenir dans d'autres détails, mais c'est les paroxysmes du cynisme de voir ses frères mourir de cette façon et venir après. Revendiquer ce qui a été fait par les autres, c'est très dangereux. Et donc, le communiqué, tout ce qui est dedans, est totalement faux. Ce que nous attendons aujourd'hui, par exemple, c'est le retrait de troupes rwandaises. Ils n'ont pas de place en République démocratique du Congo. Ça doit être clair.
De son côté, le président rwandais a nié hier lundi avoir déployé ses militaires dans l'est de la RDC. Il répondait à une question d'un journaliste de la chaîne CNN. Paul Kagame a également indiqué ne pas connaître les causes de la guerre qui sévit dans la partie est de la RDC. Des propos que le porte-parole du gouvernement qualifie de mensongers. On écoute encore une fois Patrick Muyaya dans ses propos recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
Comment peut-il dire, pour le plus sérieusement du monde, qu'il ne sait pas que son armée n'est pas RDC? Qui peut croire à un tel mensonge? Qui peut croire à une telle allégation? Qui peut croire que celui qui a fourbi sa vie dans les métiers des armes ne soit pas au courant qu'il y a quelques jours, il a mobilisé pratiquement les tiers de son armée, 10 000 hommes, dans les portes d'une ville peuplée des civils qui ont commis des crimes et des massacres, que ces services ont été mis à contribution pour aller faire les nettoyages et cacher les morts de son camp, parce que son peuple n'a pas le droit de savoir que ses enfants sont morts dans une guerre inutile. Qui peut croire à de telles allégations, alors que tous les pays du monde, au Conseil de sécurité, l'ont dit, tous les médias du monde l'ont vu. Comment peut-il, lui, être les seuls à ne pas le savoir? Ne pensez-vous pas qu'il y a un problème psychologique quelque part? Je m'interroge, je ne suis pas spécialiste en psychiatrie, mais je crois que quelque part, il y a un problème.
Qui dit vrai entre la population de la chefferie des Bachou et la société énergie du Kivu Eka? Pour certains leaders communautaires de Vuovi, la population devrait tirer profit du courant électrique de la centrale de Tahila, basée dans leur localité. Ce qui, selon eux, n'est pas le cas, car, affirment-ils, ni le centre commercial, ni l'hôpital général de référence de Vuovi ne sont raccordés au courant d'énergie du Kivu. Faux, rétorque Eka, qui précise que la population bénéficie bel et bien du courant électrique grâce à un raccordement gratuit via l'hôpital général de référence de Vuovi pour une meilleure prise en charge des patients, et cela depuis plus de 3 mois déjà. Philemon Kambale est le chargé de communication de Énergie du Kivu. Il explique au téléphone de Marc Marofimbo.
On a réalisé que l'entité de Vuovi, qui nous produit les courants à partir de la rivière Talia qui est dans le groupement Isal Vuovi, ne devrait pas aussi laisser cette entité. C'est pourquoi vous avez vu qu'à un certain moment, on a laissé une cabine à Vuovi Centre. Cette cabine qui dessert la population de Vuovi, mais aussi la société a dit non, comme ces gens tombent aussi quelquefois malades et que l'hôpital général qui gère l'entité de Vuovi et ailleurs était dans un besoin de l'énergie. La société dit que nous allons donner gratuitement un raccordement de plus de 20 000 $ à cet hôpital. Et ça a été fait d'ailleurs. L'hôpital de Vuovi continue à consommer le courant. S'il y a quelqu'un qui dit que le courant n'est pas consommé là-bas, il trompe. Le sang est bien conservé là-bas. Les appareils médicaux qui nécessitaient le courant, il y avait des couveuses, des respirateurs, et ainsi de suite. Et beaucoup d'autres appareils qui étaient là-bas. Ça fonctionne actuellement très bien.
Contacté, l'hôpital général de référence de Vuovi confirme qu'il bénéficie bel et bien gratuitement du courant électrique d'énergie du Kivu, ce qui représente une économie de 800 à 1000 dollars chaque mois qui était jusque-là utilisée pour l'achat du carburant.
Actualité internationale.
Au Soudan, 5 personnes ont été tuées ce mardi dans des tirs contre l'une des dernières installations médicales en service à Omdurman, ville voisine de Khartoum. Déclaration faite à l'agence France Presse par une source médicale qui a imputé l'attaque aux paramilitaires. Cette source à l'hôpital Al-Nao, qui a requis l'anonymat pour des raisons de sécurité, a indiqué que des bénévoles travaillant pour l'établissement figuraient parmi les 5 morts. L'hôpital Al-Nao, soutenu par l'ONG Médecins Sans Frontières, MSF, se trouve dans une zone contrôlée par l'armée soudanaise et a été attaquée à plusieurs reprises déjà par les paramilitaires, selon de sources médicales soudanaises.
L'invité
de ce journal s'appelle Christian Bossembe. Il est le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC. Avec lui, nous parlons de son communiqué du 30 janvier dernier rappelant l'obligation faite aux professionnels des médias de s'abstenir de diffuser les informations sur la guerre dans l'Est de la RDC sans se référer aux sources officielles. Le président du CESAC a aussi répondu aux accusations selon lesquelles toutes ces mesures sont susceptibles de museler la presse. Christian Bossembe s'entretient avec Blaise Shindani Kambala. Suivez.
Christian Bossembe, bonjour.
Bonjour.
Selon votre communiqué du 30 janvier, les journalistes ne doivent pas diffuser les informations sur la guerre dans l'est du pays sans se référer aux sources officielles. Il se fait parfois que la source ne communique pas. On risque d'alimenter les rumeurs, ce qui n'est pas bon pour la population. Vous ne trouvez pas, président?
Alors, je crois que le problème, il est posé à double niveau. Il faut d'abord séquencer ce problème-là pour le comprendre. D'abord, il est important que les journalistes s'informent ou que les journalistes se rassurent de la véracité et de la certitude de leurs informations auprès des sources officielles. Ça, c'est un élément, c'est un fait, c'est un principe et c'est un impératif. Mais maintenant, est-ce qu'il faut amplifier la communication? Oui, il faut que le gouvernement amplifie la communication, il faut que l'armée amplifie la communication pour permettre finalement aux Congolais d'avoir la bonne information, une information crédible. Et c'est pourquoi j'encourage l'armée à communiquer de temps en temps pour permettre aux Congolais d'être informés et de se fier aux informations crédibles. Voilà.
Est-il important de prendre toutes ces mesures actuellement? Ça risque de se retourner contre vous. D'ailleurs, une certaine opinion vous accuse déjà de museler la presse. Que répondez-vous?
il s'agit pas du musellement, il s'agit plutôt d'éviter la manipulation et la désinformation. Vous le savez très bien, à travers le monde, les pays font exactement ce que nous faisons, c'est-à-dire le pays prend des mesures drastiques lorsque le pays est menacé. Ici, l'enjeu, c'est la souveraineté, c'est l'intégrité territoriale, et des questions assez importantes, on ne peut pas les traiter légèrement. Donc, dans ces questions, il faudrait prendre des mesures exceptionnelles, puisque les circonstances sont aussi exceptionnelles. Il n'y a aucun musellement, mais c'est plutôt contrôler l'information afin de garantir sa fiabilité et sa sérénité.
Dites-nous, Président, les gens ne comprennent plus finalement. Quelle est la ligne de séparation ou de démarcation entre le CESAC et le ministère de la Communication et Médias concernant la gestion des informations sur la guerre dans l'Est du pays?
Le CESAC, c'est la régulation, c'est-à-dire l'arbitre du contenu, le juge du contenu. C'est une institution d'appui à la démocratie et qui fait la promotion de la démocratie, tout en rappelant que la rébellion, le terrorisme ne sont pas des expressions démocratiques. Et donc, le ministère de la Communication, c'est la réglementation, c'est l'infrastructure, c'est la communication et c'est l'information nationale, sinon l'information officielle. Voilà.
Il y a des réseaux sociaux qui ne fonctionnent pas ces derniers temps, entre autres X, ex-Twitter, ainsi que TikTok. Mais nous suivons les tweets du président du CESAC à longueur de journée. Comment faites-vous pour avoir la connexion?
Non, je suis frappé comme tout le monde. Je n'ai pas de mesures, exceptionnelles. Je suis comme tous les Congolais et j'en souffre aussi. Parce que c'est une mesure générale. Eh bien, tout le monde est soumis à ce même principe.
Alors, dites-nous, Président, à quand le rétablissement de ces réseaux sociaux?
Je crois que quand ça sera le moment, on vous informera.
Hier, au briefing, le VPM de l'intérieur, lui, il a dit que c'était un problème technique et bientôt, là, il y aura rétablissement de ces réseaux sociaux.
Il faut faire confiance à ce qu'il a dit.
Alors, vous avez un message à lancer à tous les professionnels des médias en tant que président du CESAC?
Soyons responsables dans les informations que nous diffusons, privilégions les informations à la dans le sens de consolider notre cohésion nationale, à la dans le sens d'encourager nos FRDC, à la dans le sens d'encourager surtout de compatir avec nos concitoyens qui ont perdu les leurs, mais en même temps restons dans le strict respect de principes édictés par le CESAC.
Christian Bossembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, je vous dis merci beaucoup.
Merci.
C'est la fin de ce journal présenté par Noëlla Luzitu Kabambi. La mise en onde était assurée par Dieudonné Nyangasa, le tout dans une coordination de Élisée Chikota Chivueta. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 16h heure de Kinshasa pour le bulletin d'information sur Radio Okapi.